Bonjour, vous êtes bien sur le 87.7, l'émission des bavardes overbookées. Aujourd'hui, on a du monde autour de la table. Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour, chacune votre tour.
Bonjour, bonjour.
Ouais, vas-y. Bonjour.
Ils sont assez bonjour. Dissipés. Tout le monde est dissipé.
Bonjour.
Ça rigole déjà, on est au début de l'émission, tout va bien.
C'est bizarre de dire bonjour comme ça.
Bah oui,
c'est dire
ça.
Bonjour tous en même temps.
Ok, hein. 3, 2, 1.
Bonjour.
Parfait, mieux, je trouve. Salut, Dylan, il faut le garder. Alors du coup, aujourd'hui, on va vous proposer un petit quelque chose pour changer un energizer. On va faire la météo des humeurs. Du coup, c'est quoi la météo des humeurs? C'est de savoir un peu comment vous sentez aujourd'hui en faisant un peu la météo. Genre aujourd'hui, c'est ensoleillé, aujourd'hui c'est nuageux, pluvieux. Tout ce que vous voulez. Qui veut commencer?
Moi.
Vas-y, Max.
Alors, on est sur une petite brume de fin d'hiver, mais quelque chose de assez doux, où il y a quand même une petite écharpe, mais il commence à faire bon, donc ça va.
Ok, trop cool. Assez poétique quand même. Merci. Qui veut? Vas-y, Juliette.
Alors, de mon côté, c'est un peu brumeux, je suis très fatiguée, mais il y a un très beau rayon de soleil qui arrive là avec... ma présence ici avec vous, donc je suis très contente.
Trop cool. Merci. À quel tour? Vas-y, Sam.
Alors moi, on peut dire qu'il y a plein de feux d'artifice dans le ciel, et mais devant, vous pouvez mettre un peu de brume quand même, parce que c'est la fin de journée, et je suis éclataxe. Mais ouais, c'est assez ensoleillé, et voilà.
Trop cool, merci. À moi? Ah oh putain, j'ai pas réfléchi.
Bah oui.
Quelle est ma météo?
Le soleil a du mal à se lever depuis ce matin. Fin de semaine, fin de journée. Enfin, fin de semaine, parce qu'on enregistre un vendredi. Ah. Pardon. Parce que normalement, on est... bref. J'arrête.
Pour commencer.
Je recommence. Du coup, de mon côté, le soleil a du mal à se lever, mais il a hâte de se coucher pour aller boire des coups avec vous. Ça va ou pas? Ça passe. Est-ce que, alors, du coup, on a Angélique et Ludivine aussi qui sont autour de nous. Autour de la table, plutôt autour de nous. N'importe quoi. Est-ce que vous voulez faire une petite... Non? Ok, ça marche. Tout va bien. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes beaucoup en studio.
Moi, je fais la technique, j'ai pas le droit de parler.
Oh, genre.
Et moi, je suis le public, je peux pas parler non plus. J'applaudis. Ah.
Vous savez,
du coup, quand même.
elle se balade en studio avec son panneau applause. Du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui, pour cette émission, nous avons avec nous Juliette, Sam pour l'animation avec moi. Nous avons Max, Ludivine à la technique et Angélique en public. Voilà, la Dream Team.
C'est trop bien. Team fatiguée, visiblement.
J'avoue. Et du coup, est-ce que Juliette, tu veux bien démarrer pour ta petite chronique sur les conseils de lecture pour Halloween?
Allez,
c'est parti.
Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de rigoler, je suis fatiguée.
Alors, c'est ok.
Ça y est, nous sommes en automne. Personnellement, je n'aime pas grand-chose de cette saison. La rentrée, le froid qui débarque, la pluie, le vent, devoir ranger les jeans raccourcis dans les placards et sortir les pulls. Ne jamais savoir comment s'habiller le matin. Mais il y a quelque chose que j'aime bien, c'est Halloween. Plus qu'une simple fête dans le calendrier, plus qu'un simple jour dans l'année, c'est toute une saison à célébrer comme la période de Noël. Une saison avec des citrouilles, des bougies, des crânes et surtout des histoires qui font frissonner. Le seul problème, c'est que quand on cherche des idées de lecture, les titres qui ressortent ont bien souvent été écrits par des hommes. Bram Stoker, Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft ou encore Maxime Chatham, plus proche de nous. Par ailleurs, lire un livre écrit par un homme peut déjà en soi constituer une expérience effrayante. Il suffit de plonger dans un livre de Houellebecq pour s'en rendre compte. Alors je me suis dit que j'allais vous proposer aujourd'hui quelques livres écrits par des femmes. Des livres plus ou moins effrayants, pour que tout le monde y trouve son compte, et dans tous les cas, habiter d'une atmosphère mystérieuse et sombre, car je vais vous parler de maisons hantées, de châteaux isolés et de monstres. Commençons par quelques classiques. Les femmes ont été pionnières dans l'écriture des grands frissons. En 1794, Anne Radcliffe donne ses lettres de noblesse au roman gothique avec Les Mystères d'Udolf. Le roman gothique, vous savez, c'est ce genre littéraire dans lequel on trouve un château sombre et mystérieux, des passages secrets, des cryptes, et surtout, piégée entre ses murs, une héroïne jeune et fragile confrontée aux fantômes du lieu. Ce livre d'Anne Radcliffe est le parfait exemple de ce genre romanesque qui, encore aujourd'hui, inspire écrivains et écrivaines. Au début du siècle suivant, autre autrice, autre classique, 70 ans avant Dr. Jekyll et Mr. Hyde, 80 ans avant Dracula, l'écrivaine Mary Shelley écrit et publie Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce roman, à l'origine d'un mythe littéraire et artistique, est souvent peu connu du public, qui imagine la créature du docteur Frankenstein comme un monstre vert au crâne cousu, traversé par des clous ou des boulons. Mais Frankenstein, c'est surtout un roman passionnant qui interroge l'humanité, l'altérité, le pouvoir de la science et la quête d'éternité. Un roman dans lequel l'atmosphère, qui s'inspire des romans gothiques, joue un rôle essentiel. Avec Frankenstein, nous partons dans l'univers, je cite, « des châteaux en ruines suspendus au bord des précipices sur les montagnes couvertes de pins, en plein cœur des Alpes neigeuses ». Faisons maintenant un bond dans le temps, en 1959, et rencontrons Shirley Jackson. Cette autrice incarne le renouveau du roman gothique. Elle est notamment l'autrice de « La maison hantée », roman qui a inspiré le film « La maison du diable » de Robert Wise, et la série Netflix « The Haunting of Hill House ». Mais attention, il ne faut pas s'attendre à des sursauts d'horreur loin de là. L'autrice prend son temps pour donner vie à cette maison inquiétante et pour y introduire les éléments paranormaux qui, aujourd'hui, nous paraissent attendus, mais qui, à l'époque, étaient relativement nouveaux. La psychologie joue un rôle essentiel et c'est ce qui fait tout l'attrait de ce récit étrange. D'autres autrices se risquent d'ailleurs à la réactualisation du récit gothique. C'est le cas de Susan Hill avec La Dame en Noir ou encore de Daphné du Maurier avec Rebecca, que je suis d'ailleurs en train de lire en ce moment. Enfin, on peut évoquer Edith Wharton, surnommée par Henry James, l'ange de la dévastation, dont les nouvelles ont été éditées au livre de poche sous le titre Kerfol et autres histoires de fantômes. Beaucoup plus proche de nous maintenant, j'aimerais vous parler d'un roman que j'ai tout simplement adoré. Je vous en lis quelques mots d'abord. Il était une fois un château de granit noir. Il se dressait avec majesté sur une île désolée, muet comme un tombeau, sourd comme la neige. Ses blocs de pierre portaient en eux la folie d'un architecte malade. Sa roche antédiluvienne, le sang séché de ceux qui avaient péri à le bâtir. Un château aux murs épais, contre lesquels d'infimes murmures s'étiolaient dans le soir. Ce roman de Lucie Barat s'appelle Le Chien Noir et est sorti en 2020. C'est l'histoire d'une jeune femme que son père déteste, mariée de force au mystérieux roi Barbiche, qui l'emmène vivre dans son château sur une île isolée avec pour seul compagnon un serviteur inquiétant. Dans ce château obscur aux mille recoins secrets se cache une porte dont Eugénie a la clé, une clé qu'elle ne doit jamais utiliser. Ce roman est à la fois une réécriture des contes traditionnels, la référence à Barbe Bleue est évidente, et un hommage aux grandes autrices dont Anne Radcliffe fait partie. Mais nous pouvons aussi penser à Daphné du Maurier, évoquée précédemment, ou encore aux sœurs Brontë. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il reprend les éléments qui ont fait de ces romans, de ces écrivaines, des chefs-d'œuvre, avec un regard moderne et une esthétique franche et audacieuse. Vous l'aurez compris, avec cette chronique, il est tout à fait possible de se faire peur ou simplement de s'imprégner de l'ambiance mystique et inquiétante d'Halloween en lisant des autrices. Et surtout, c'est l'occasion de leur redonner leur juste place, celle de pionnières et de parfaites représentantes de ces genres bien trop souvent dominés dans l'imaginaire collectif par les œuvres masculines. Ne l'oubliez pas, nos choix de lecture aussi peuvent être militants.
Voilà. Merci Juliette, oh, trop cool. Petite question Juliette, où est-ce que tu as toutes ces références de bouquins, s'il te plaît ?
Alors je fouine.
Okay.
Je fouine à la bibliothèque universitaire notamment, et puis... Je fais beaucoup de recherches parce qu'en fait, il suffit parfois de partir d'une seule autrice, en fait, de remonter un petit peu le fil et d'en trouver d'autres. Elles s'inspirent aussi souvent les unes des autres, donc c'est assez, assez facile. Et en même temps, ça reste un petit parcours d'obstacle quand même, parce que voilà, c'est souvent des femmes qui sont un petit peu dissimulées derrière les œuvres des hommes. Je pense à Daphné du Maurier, en fait, bon, alors, elle est relativement connue, mais en fait, on a souvent tendance à l'oublier derrière Hitchcock, par exemple, parce que c'est lui qui a adapté Les Oiseaux, qui est l'un des romans de Daphné du Maurier, du coup, au cinéma. Il y a aussi voilà, toutes les adaptations de Rebecca, qui aussi, du coup, font un peu oublier l'autrice qui est derrière. Et pareil pour Frankenstein. Tout ce mythe voilà, de Frankenstein, de la pop culture, est souvent d'ailleurs par des plumes, entre guillemets, masculines. Donc c'est vrai que revenir aux origines voilà, de cette écriture par une femme, c'est aussi intéressant, en fait, mais parfois un peu difficile.
Carrément. Mais c'est vrai que Hitchcock, Les Oiseaux, on connaît, mais de où ça vient, de où c'est tiré, je ne savais pas du tout. Cool. Merci en tout cas pour cette info. Et j'allais dire un autre truc. Vous faites quelque chose pour Halloween, vous, ou pas ? Vous avez le droit de dire non.
J'apprends à faire des cookies.
Ah, tu pourras en ramener.
Je veux faire des cookies avec des petits motifs de chauve-souris. Et tout.
Ah, trop bien. Et bah, moi, je veux bien être une goûteuse, si tu veux donner mon avis. J'adore les cookies.
Je vais un goûter d'Halloween.
Trop chouette. Ok, moi, j'ai prévu de ne rien faire. Voilà.
Moi, pour Halloween, je serai dans l'avion retour de Hongrie, donc ah oui. Je ne pourrai pas faire grand-chose, mais je pense que je vais prendre un petit roman pour lire dans l'avion, me mettre un petit peu dans l'ambiance.
J'ai juste une petite roco-lecture. Souvent, le mois d'octobre et en règle générale l'automne, c'est clairement le retour dans mon sac de Patti Smith, que j'adore et qui a un truc un peu brumeux, un peu rassurant. Et j'adore lire ses textes, vraiment, l'automne, c'est à chaque fois que je me relis Patti Smith.
Ok, voilà. Trop chouette. Merci pour toutes ces références, c'est trop trop bien.
Alors, nous accueillons Max qui fait son baptême des chroniques et elle va nous parler de l'incertitude. À ton micro, Max, nous t'écoutons.
Merci. Quand le brouillard vient, que ma tête, que mes mots, que mon corps ne suit plus, je doute, je suis pas sûr. J'ai souvent été rempli d'une incertitude. Niveau connaissance du sentiment, ça va, je suis calé. Globalement, je vis anxiété sur anxiété et donc tous mes choix et mes actions doivent passer par un filtre. Celui qui interroge et qui juge ce qui est bon ou mal. Qui a affaire ou non. Quand j'étais au collège, j'ai eu envie de parler de ces incertitudes, du fait que, bah, bien souvent, moi, je suis pas très sûr. Je suis pas sûr de mon genre, je suis pas sûr de ma sexualité, pas sûr de mes passions, pas sûr de mes envies, et ah merde, c'est toujours d'actualité. Bon, on repassera. À chaque fois, j'ai du mal à me confronter à l'incertitude. J'ai eu cette petite pensée qui vient me voir et me dit avec un sourire aux lèvres, hey, tu dois être sûr de toi, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et moi, bah, ça m'emmerde, j'ai pas envie que ce soit comme ça. J'ai pris vachement de temps à comprendre pourquoi. Parce que je vis dans un monde où, quand t'es queer, il faut que tu sois sûr. Aucun droit au doute, aucun droit à la recherche. Ce que tu es et ce que tu penses être doit être sûr. Parce que sinon, t'es bancal, tu deviens fragile. Et puis surtout, on te dit que c'est pas vrai. Que bien sûr, t'as le droit d'hésiter 2 secondes, mais quand même, faut te décider. Et puis, qu'est-ce que tu fais si t'es jamais sûr de toi? Franchement, faut trouver une solution. Alors ici, chère auditrice, chère auditeur, chère auditeureux, je vais pas te dire que je suis sûr. Je vais pas non plus te dire que tu le seras. C'est à toi de faire ton chemin. Ce que je peux te dire, c'est que bordel, t'as le droit de douter. T'as carrément le droit de pas être sûr de toi. Moi, même là, je me sens pas tellement légitime. Je suis pas sûr de te raconter ça. J'ai envie que tu saches que ton incertitude, moi, je m'en fiche. Elle me déplaît pas. Mais je l'aime pas non plus. En fait, elle est là. Et tu pourras faire du déni, c'est ok de le faire parfois, y a pas de souci. Mais n'oublie surtout pas que tu as le temps de prendre du temps pour toi. Rien que pour toi. De te placer en dehors du fait d'être sûr, mettre ta pensée, tes émotions et tes doutes au premier plan, discuter avec, les interroger. Même si ça résolut pas les problèmes, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu ne juges pas tout ça. Parce que tu vas finir par trouver des réponses et dans tout ce manche, tu vas voir, tu vas apprendre des tas de trucs. Alors je t'invite, si t'es ok, si tu le sens, de parfois prendre du temps avec ce mini escape game que t'as dans la tête et comprendre que qui tu es se construit et se construira toujours et que c'est kiffant de voir des gens comme toi se construire. Moi, ça me fait du bien.
Wow, bravo! Trop cool, beau baptême.
Merci.
Trop bien.
Merci. Je suis baptisée.
Je me sens très concernée étant balance. En ce qui concerne l'indécision, l'incertitude, c'est ma vie tous les jours. Voilà, j'en peux plus. Bref, voilà, c'était pour la petite blague astrologie. Je suis balance, ascendant, bélier. Du coup, je suis très têtue dans mon indécision.
Ah oui.
Je lui enlève le micro parce que si elle continue à parler astrologie, on est vraiment foutus là. Vous avez en face de vous une lesbienne. Laissez tomber, c'est pas possible.
Oh,
du coup, merci vachement Max, c'était trop trop bien. Et coupant la parole à Estelle et prenant un putsch, je te permets de te féliciter déjà et que c'est vraiment trop cool parce que je pense que tu vas en parler. Je vais t'inviter à en parler, mais le genre, la sexualité, etc., c'est des spectres qui sont souvent fluctuants. Mmh. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande souvent de nous mettre dans des cases et de nous définir pour un temps donné, voire pour toute la vie. Du coup, je ne sais pas comment toi tu le vois, comment toi tu le ressens, et est-ce que c'est par rapport à ça que tu as écrit cette chronique ?
C'est en partie par rapport à ça, mais je pense que ça regroupe un truc plus général du fait d'être, de voir... tout le temps être sûr, parce que quand je suis triste, je dois être sûr d'être triste. J'ai pas le droit d'être heureux le lendemain. Ou quand je suis heureuse un jour, j'ai pas le droit d'être triste le lendemain. Et donc je suis dans une situation où moi j'ai pas envie d'être sûr de moi tout de suite. Il faut que je prenne le temps pour réfléchir. Et quand j'ai commencé à avoir des réflexions sur mon identité de genre, je pensais que au bout d'un moment j'allais être sûr et puis voilà. Sauf que non, et c'est cool de prendre son temps Et oui, c'est hyper bien d'avoir de la représentation. Oui, c'est hyper bien de passer mon temps à regarder des vidéos sur YouTube de sujets qui en parlent. Mais j'ai le droit de douter. Oui, je regarde des gens qui ont l'air sûrs d'eux, mais j'ai le droit de ne pas être sûr de moi et de prendre le temps pour être sûr pour moi.
Et pour rebondir, c'est que on n'est pas obligé d'avoir une réponse. Peut-être qu'on n'aura jamais de réponse à ces questions, en fait. Et c'est OK. Ça ne nous enlève pas notre identité, ni notre légitimité vis-à-vis de ça, en fait. Enfin, je pense.
Et ça ne fait pas de nous ou de vous des personnes pas dignes de confiance ou dignes de stabilité pour quoi que ce soit. Ouais. Enfin, en vrai, voilà. C'est, enfin,
ni des gens cassés ou quoi.
C'est ça. Et c'est super cool de mettre des mots là-dessus et de se rassurer, de rassurer les autres aussi là-dessus. Et merci pour ça.
Et je pense qu'il y a aussi le fait que, comme de toute façon, quand on est là, on ne nous laisse jamais le choix, en fait, de quoi que ce soit, de notre orientation sexuelle ou de notre orientation de genre. Bah, en fait, le fait de douter, ça vient à l'esprit de personne de douter là-dessus, vu que techniquement, on n'a pas le choix. Et donc, du coup, on en revient encore à ce qu'on avait déjà discuté, mais de l'apprentissage du genre et de l'apprentissage de la sexualité à l'école dès le plus jeune âge, pour expliquer en fait que c'est ok de ne pas être fille ou garçon et d'être autre chose, ou c'est ok aussi d'être fille ou garçon si on est ok avec ça, mais qu'il y a plein de choses à voir ailleurs. Et du coup, on en revient encore à ce lever de bouclier qu'on a eu en France, et même je sais dans d'autres pays, sur l'apprentissage du genre à l'école. Et du coup, ça donne des situations où on se sent mal ou on se sent pas bien parce qu'on doute sur des choses où on nous apprend pas et on nous donne pas le droit de douter.
Et puis, si on prend juste le sujet du doute, etc., moi, il y a un domaine dans lequel ça fait écho parce que, surtout quand on est jeune, c'est le truc des études. À chaque fois, on nous dit, voilà, si t'as pas un parcours défini, si tu doutes, si tu changes 36 000 fois d'études, etc., c'est hyper mal vu, et ça fait de toi souvent quelqu'un qui est immature ou quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut dans la vie, qui a pas d'ambition, etc. Alors qu'en fait, c'est totalement ok de se planter, de recommencer, de se replanter, de recommencer, et peu importe l'âge, peu importe le nombre de fois, c'est absolument pas grave, en fait. Et ça, malheureusement, ça met la pression à beaucoup de personnes, et ça en angoisse plus d'un et plus d'une, parce qu'on nous la met, cette pression vis-à-vis de ça.
C'est fini les carrières de 30 ans dans la même boîte.
Ouais, non, mais c'est clair. Démissionner.
C'est terminé. Ouais, c'est...
ouais, puis surtout, il n'y a pas que quand on est jeune qu'on apprend. Mm-hmm. Quand on vieillit aussi, on apprend. Et c'est OK d'apprendre avec le temps, quoi.
Mm. Bah, c'est ça, en fait, on nous dit toujours qu'il y a une fin. En fait, on a l'impression que c'est enfance, adolescence, c'est la phase d'apprentissage. Et après, ça y est, c'est fini. Genre, non, tu sais quitter, t'es dans un moule et tu n'y bouges plus, en fait. Et souvent, alors ça y est, tu y bouges, non, c'est la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, et ça y est, quoi.
C'est absolument une excuse, quoi.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de non, mais en fait, c'est OK. Genre, trop bizarre.
Angélique, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, moi, en tant que spectatrice, je voulais intervenir en savoir chaud.
Ouais.
Du coup, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des enfants à l'école. Et plein de fois, j'ai voulu faire participer à des filles au foot. Et c'est mes collègues ou mes chefs qui venaient me voir en disant « Bah non, c'est une fille. » Et du coup, Donc, dès le plus jeune âge, l'identité de genre se construit ou on l'a subie à l'école, en tout cas.
C'est clair. C'est grave clair. Quand moi, je disais... Une fois, je me suis fait une entorse à cause de... En jouant au foot, je me suis fait une entorse au genou. Et genre, on m'a dit, mais pourquoi tu joues au foot aussi ? Bah, parce que j'ai envie de jouer au foot. Enfin, genre, ne me faites pas chier, laissez-moi me blesser tranquillement en faisant ce que je veux. Quoi. Enfin, allez. Juliette, non ?
Moi, ça fait quand même 8 ans que je fais les mêmes études et je peux confirmer que je suis toujours dans l'incertitude. Donc, en effet, c'est pas une question d'âge ou quoi que ce soit, ou d'expérience. Voilà, je suis en doctorat, je ne sais pas du tout de quoi est fait mon avenir. C'est rassurant.
Et en plus, tu viens de le dire, t'es en doctorat, mais c'est des études où en fait on te dit, bah en fait t'as 3 ans pour faire un projet que t'as décidé ce jour J, et t'as pas le droit d'en changer, sinon ton doctorat il est foutu, quoi.
On m'en parle pas.
Voilà, donc c'est aussi des choses sur lesquelles je comprends qu'on a parfois on ait besoin de s'appuyer sur des projets sur du long terme, mais voilà, moi c'est l'impression, bah, je parle que de la France parce que je connais que la France, mais c'est vrai que c'est très, t'as fait ce diplôme-là, ah bah du coup t'es dans cette branche-là, et bon courage, rame bien pour pouvoir changer d'études par la suite, et pouvoir découvrir autre chose si t'es pas un peu débrouillarde, quoi.
Comme le fait d'être parent. Enfin, pardon. Je viens de recevoir une photo du petit garçon de mon meilleur ami qui vient de naître là cette semaine, et voilà.
Surprise générale.
Je montre la photo à tout le monde. Je suis trop fière. Oui, Nathan, il est papa. Pardon. Et du coup, je me dis, mais même, en fait, le fait d'être parent... Enfin, genre, moi, par exemple, il y a quelques années, je me disais, ouais, je vais être maman un jour, machin, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me dis, mais non, enfin, déjà, j'en ai trop de faire de moi. Genre, des fois, je sais pas quoi faire de moi-même. Du coup, de m'occuper d'un autre petit être qui va grandir. Et toutes ces... Enfin, bref, voilà. Du coup, c'est aussi OK de se dire... à un moment donné, j'ai peut-être pas envie d'être parent, ou jamais, ou... Enfin, voilà, bref, c'est dû à la photo, pardon. Voilà.
C'est... Et au-delà des clichés, la maternité chez la femme, c'est pas du tout inné. C'est quelque chose... J'ai pas d'enfant, mais j'imagine qu'on apprend ça sur le tas. Et c'est pas dans nos gènes, ou quoi que ce soit, en fait.
Oui. Voilà. Puis il y a pas de maman parfaite, oui. Enfin, de parent parfait.
Mais il y a pas mal de ressources en ce moment là-dessus, justement, sur cette question-là, et je pense notamment au livre... Lâchez-nous l'utérus, qui en parle assez bien justement de cette injonction à la maternité, etc. Il y a aussi le livre de Chloé Chaudet qui est Je ne veux pas d'enfant, qui en parle assez bien aussi. Donc,
Puis on a notre chroniqueuse d'habitude, Hélène aussi, qui nous en parle très bien de ce sujet. Elle est malheureusement pas avec nous ce soir parce qu'elle s'occupe de ses enfants.
Réunion parents-prof. Hein.
Et voilà.
Et là, voilà. Du coup, c'est le moment de la pause musicale. Nous allons écouter. Halsey, on vient de me reprendre, c'est pour ça. Du coup, H-A-L-S-E-Y, voilà. Du coup, c'est une autrice, compositrice, interprète, poète, créatrice de maquillage et actrice américaine.
Incroyable.
Autant vous dire que très douée, la dame. Ouvertement bisexuelle. Pour sa musique, I'm not a woman, I'm a god. Voilà, avec mon accent anglais parfait. Et du coup, c'est des musiques aux influences électropop et indie-pop. Bonne écoute. J'espère que vous avez aimé cette musique et on m'a très justement reprise pour mon lancement, donc on ne dit pas poète, on dit poétesse. Et excusez-moi pour cette erreur.
On voit que t'as bien écouté la chronique de Juliette du mois dernier.
Pardon, toutes mes excuses. Et c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Oui, voilà, tout à fait. Je te laisse, Sam, à toi.
Maintenant, pour cette troisième chronique, nous allons écouter Steph, qui va nous parler du Covid et de l'impact qu'il a eu sur les femmes.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous attaquez la rentrée sur des chapeaux de roue. Quant à moi, écoutez, pour cette rentrée, je vais échanger avec vous sur un sujet qui est en lien malheureusement avec ce que l'on vit depuis quasiment 2 ans, le Covid-19 et l'égalité des sexes. On a pu observer que le Covid-19 touchait les femmes sous formes différentes, qu'il s'agisse de préoccupations pour leur santé, pour leur sécurité ou pour la sécurité de leurs revenus, de responsabilités supplémentaires en matière de soins ou d'une exposition plus importante à la violence domestique. Effectivement, les femmes et les jeunes femmes qui gagnent en général moins, épargnent moins et occupent des emplois précaires, vivent dans une situation de pauvreté et ressentent particulièrement l'ensemble des répercussions économiques. On peut également remarquer que les chaînes de valeur mondiales sont perturbées par le Covid-19. Les femmes jouent un rôle clé à tous les niveaux en tant qu'agricultrices, travailleuses, transformatrices, entrepreneuses, acheteuses, prestataires de services et employées. Elles sont en première ligne en tant que travailleuses de la santé, travaillant de longues heures et s'exposant à des risques lorsqu'elles s'occupent de patients ou de patientes. Et pourtant, leur emploi est souvent plus sous-évalué et les plus sous-payés. Eh bien, les premiers rapports révèlent que les hommes meurent plus que les femmes des suites du Covid-19, la santé des femmes est généralement affectée par la réaffectation des ressources et des priorités, y compris les services de santé sexuelle et reproductive. On observe effectivement que les fermetures des écoles et des garderies ont imposé aux femmes une charge supplémentaire importante en matière de soins domestiques. L'aspect positif dans tout ça, c'est qu'elle a mis en lumière la dépendance de la société à l'égard des femmes et des jeunes femmes dans les secteurs de soins formels et informels. L'impact sur les entreprises non essentielles, en particulier dans le secteur des services, est particulièrement préoccupant pour les femmes en tant que propriétaires d'entreprises et en tant qu'employées. Beaucoup d'entre elles perdent leurs moyens de subsistance parce que le télétravail, n'est pas une option. Sachez qu'au niveau mondial, les femmes représentent 55,8% des emplois du secteur des services, tandis que dans les pays du G7, c'est-à-dire l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne, les femmes représentent environ 88% des effectifs de ce secteur. Alors, la plupart d'entre elles ne peuvent pas travailler à distance et peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire pour s'occuper de leurs enfants ou même de membres plus âgés de leur famille lorsqu'elles quittent le domicile pour aller travailler. Alors, il y a les principes d'autonomisation des femmes. Donc, en anglais, attention mon accent, Women's Empowerment Principle, donc avec les initiales WEPS, sont l'ensemble de 7 principes qui fournissent une orientation aux entreprises sur la manière de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sur le lieu de travail, sur les marchés et au sein de la communauté. En cette période malheureusement de bouleversement et d'incertitude, les WEPS se constituent une ressource importante pour le secteur privé afin de l'aider à protéger les groupes les plus vulnérables. Créée conjointement par l'ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies, les WEPS s'inspirent des normes internationales en matière de travail et de droits humains. Ils se fondent sur la reconnaissance du fait que les entreprises ont un intérêt à aspirer à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et ont donc une responsabilité à cet égard. Les priorités transversales devraient faire partie de toutes interventions relatives au Covid-19, notamment dans le cadre des WEPS, et devraient se centrer sur les employés, les entrepreneuses des chaînes d'approvisionnement mondiales, les consommatrices ainsi que les femmes et les filles vivant dans des communautés locales. Elle vise à garantir que les personnes ne soient pas laissées pour compte pendant ou après la crise du Covid-19. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ce sujet vous a intéressé. En tout cas, j'ai pris plaisir à le faire pour vous. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Alors, merci Steph pour cette chronique, en espérant te voir très prochainement en présentiel. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit retour sur comment nous, on a vécu ce confinement ? Je ne sais pas comment le lancer. Si...
Non, c'est bien.
Moi, je veux bien faire un retour sur comment j'ai vécu le confinement. Alors, finalement, je ne l'ai pas trop vécu, le tout premier en tout cas. Parce que je me suis séparée à ce moment-là et que du coup, je faisais des allers-retours pour déménager. Donc au final, voilà. Et j'ai continué à bosser aussi. Donc du coup, je me déplaçais pour aller au travail. Enfin, pas le premier mois, mais après, je me déplaçais encore pour aller au boulot. Donc du coup, je voyais encore du monde, etc. Même si les mesures sanitaires au sein de mon ancien travail, c'était pas... C'était quelque chose qui était... de l'ordre du plus, voilà, c'était beaucoup trop de mesures sanitaires, mais voilà, mais du coup, ouais, alors pour moi, le premier confinement, je ne l'ai pas trop vécu, je ne l'ai pas ressenti plus que ça, parce que vraiment, j'ai beaucoup fait d'aller-retour pour mon déménagement, etc., donc voilà, pour mon retour sur ça.
Alors moi, le premier confinement, il a été un peu plus dur pour le coup, parce que bon, j'ai l'habitude de faire du télétravail, parce qu'en fait, en étant en thèse, je travaille très souvent toute seule et très souvent chez moi.
On rappelle qu'elle est en doctorat.
Voilà, je suis en doctorat, donc j'étais... Mais bon, c'est déjà dur. Et c'est vrai que mes petites respirations, c'était quand j'allais retrouver des gens, quand voilà, enfin, j'avais besoin de ça. Donc quand je me suis retrouvée un peu condamnée à être chez moi toute seule, c'était un peu compliqué quand même, surtout quand on est fragile psychologiquement, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, c'était pas facile, mais j'avais quand même mon chiot qui est arrivé 3 jours avant, donc ça m'a largement occupée pendant le confinement, donc ça m'a un petit peu sauvée cet aspect-là. Mais je suis allée chez ma mère qui, elle, par contre, travaillait, et donc qui travaille en effet dans le commerce alimentaire. Donc c'est aussi un milieu qui, enfin voilà, où on demandait quand même beaucoup de sacrifices aux employés et voilà, un travail épuisant et dans des conditions en général quand même, enfin surtout pendant le premier confinement, des conditions sanitaires assez assez incertaines, etc. Donc voilà, j'avais toujours un peu d'angoisse aussi par rapport à ça, parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre, on savait pas trop ce que ça allait donner en fait, cette maladie. Donc c'était un peu dur, en fait, de la voir partir tous les matins, et voilà.
Oui, ah bah j'imagine. Ok, merci pour le retour. Quelqu'une d'autre ?
Pour ma part, vous imaginez un tout petit appartement, sans jardin, sans cour, des voisins qui hurlent au rez-de-chaussée, 2 personnes vivant, du coup, dans un appartement avec un lit, une place... Et décoloration de cheveux ratée. dites-vous que les seuls moments de solitude pour avoir un moment d'espace, c'était de se mettre l'une et l'autre au bout du lit d'une part et d'autre, ce qui était assez compliqué. Donc je remercie Animal Crossing de m'avoir sauvé mon confinement. Et voilà, et des recettes de cuisine aussi qui m'ont pas mal aidée. Mais c'était assez chaotique.
Je crois qu'on a tous et toutes appris à faire certaines recettes de pâtisserie et du pain.
Oui, du pain, oui, du pain.
Voilà, la première fois que j'ai fait du pain, c'était en confinement. D'ailleurs, je continue à faire mon pain. J'ai une très bonne recette de pain sans gluten, si ça
intéresse. Donc, après avoir goûté les cookies de Max, on va goûter le pain de Juliette, ça va.
Et je peux vous faire des tartes, si vous voulez.
Et ça me fait des super bonnes tartes, c'est vrai.
Je peux vous faire des soupes pour compenser.
Merci Angélique. Est-ce qu'il y a d'autres retours ou pas par rapport au confinement ?
C'est rigolo parce que tu as eu les couleurs de cheveux. Moi, je me suis rasé le crâne. Donc, bon.
Ah oui, ça a bien poussé.
Ah oui,
ouais.
J'avais la vache. Tu dis que mes cheveux poussent vite, mais les tiens aussi.
Les huiles. Mettez de l'huile de ricin, c'est incroyable. L'huile de coco.
Donc après, les astuces littéraires, nous avons les astuces pour les cheveux. C'est parfait.
Mais du coup, comment j'ai vécu le confinement ? En soi, c'est... Enfin, pour le coup, moi, j'ai vraiment apprécié cette période parce que c'était de l'isolement maîtrisé. Même si j'ai eu beaucoup de mal très longtemps, parce que mes parents sont... Enfin, ma belle-mère a une maladie sanguine qui fait qu'elle a 0 anticorps, en fait. Du coup, sortir, c'était vraiment genre la survie et hyper angoissant parce qu'on ne savait rien en tant que tel au début. Et du coup, bah, moi, j'ai passé, en fait, non pas 2 mois de confinement, mais bien 4-5, je pense, avec les vacances d'été et tout. Et du coup, en fait, cet isolement, moi, il m'a beaucoup plu, même si j'avais du mal à me nourrir d'autres choses. Donc, j'ai passé mon temps à me bouffer des films, à me bouffer des livres, à me bouffer tout et n'importe quoi pour me nourrir. Mais en vrai, ça commençait à avoir un rapport très insensible, alors que j'adore ça. Et je me suis fait une cure de désintox de l'art. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et c'est très appréciable.
Ok, cool. Trop bien.
Et pour revenir peut-être plus sur le sujet de Steph aussi, tu nous partageais quelque chose, Sam, par rapport à tes amis, tes profs, tes prépas, etc. etc. parce qu'il faut dire que nous, toutes et tous autour de la table, on a entre guillemets la chance de ne pas être mariés, de ne pas avoir d'enfants, et, etc. et de ne pas vivre avec un conjoint ou une conjointe par rapport à ça, mais il faut aussi, et je pense que ça n'a pas été assez traité dans les médias parce que ça a été vachement invisibilisé, mais ce que tu disais, Steph, par rapport au fait que toutes les garderies et les écoles étaient fermées, ça a fait en fait que les enfants étaient à la maison, avec les parents. Mais l'homme travaillait dans une pièce, souvent, et la femme travaillait avec les enfants, parce qu'en fait, elle continuait à avoir cette activité de « je m'occupe des enfants », sur mon temps de travail, alors que l'homme disait « Mais non, non, mais moi je travaille, je peux pas le faire. » Bah oui, mais en fait, moi aussi, connard. Du coup, on fait comment ? Et du coup, Sam, tu nous partageais quelque chose ?
Oui, c'est ça, pour vous donner des exemples. Par exemple, j'avais des amis qui étaient notamment en prépa et qui, durant leur cours de visio, avaient leur professeur eux, en face d'elle, avec en fait les enfants sur les genoux, quoi. Donc c'était assez invivable. Parfois c'était des nouveau-nés, donc gérer les pleurs en même temps de gérer des cours imbuvables, c'était assez compliqué, je pense. Et puis même outre l'expérience de mes amis, moi mes voisins qui étaient le parfait reflet des couples hétéronormatifs, etc. C'était hurler tellement qu'on connaissait leur vie entière et charge mentale plus pour la femme, quoi. C'était catastrophique avec un enfant en bas âge, du coup, et on suivait leur vie pendant tout le confinement, et ça avait pas l'air d'être fun d'être hétéro. Enfin, pardon, genre pas disons pour mes voisins.
Non, et puis le fait aussi que il y a beaucoup de personnes qui ont pensé pendant un temps que bah c'est trop cool en fait, du coup le papa il va pouvoir passer du temps avec ses enfants. Mm-hmm. Mais la réalité des choses en fait c'est que ça s'est très 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 rarement passé comme ça. Alors certes en fait il gagnait les trajets etc avec ses enfants et tout, mais il continuait à être là pour les moments fun comme en fait on voit dans tous les couples hétéros qui suivent un truc d'hétéropatriarcat. Chez nous en ce moment et autour de nous dans notre société, c'est que bah, c'est la femme qui s'occupe de tous les trucs chiants, avec une charge mentale plus, et le mec il leur apprend à faire un vélo, et puis de temps en temps il leur fait de la pâte à molder parce que c'est cool. Mais, et en fait ça même pendant un confinement, alors qu'il est en présentiel avec ses enfants, et je parle pas pour tous les mecs, bon, même si c'est quand même une grosse majorité, et en fait on voit que la société elle est tellement ancrée que même s'il y a la possibilité d'eux, bah, en fait ça se fait pas. Ça se fait pas. Et du coup, il faut aussi dire ça que bah, c'est aussi ce que Steph disait, que bah, ça a détruit certaines entreprises de femmes, etc., parce qu'elles ne pouvaient plus aller bosser et qu'elles avaient des enfants chez elles tout le temps et que le mec ne foutait rien. Et du coup, elles devaient prendre sur leur temps de travail pour bosser vis-à-vis de ces enfants-là qui, concrètement, n'avaient rien à foutre. Enfin, du coup, il y avait vraiment cette charge mentale, cette pression constante. Et donc, on pensait que ça allait faire du bien par rapport à ça, mais ça n'a fait que creuser encore plus ces inégalités entre les hommes et les femmes dans ces couples hétéropatriarcales, les pauvres.
Oui, mais quand bien même l'homme était présent avec ses enfants et tout, c'est quand même curieux qu'il faut attendre une épidémie mondiale pour que les hommes se décident à peut-être être présents avec leurs enfants. Ce serait intéressant.
Et ça suffit même pas.
Oui. Parce que c'est redevenu la normale de leur normalité d'avant. Et du coup, là, fin, elles sont à nouveau absentes en fait, dans leur vie de famille. Et c'est, ouais, ça peut-être servir à rien. Quoi.
Et je pense aussi surtout qu'ils bah, ne l'ont jamais fait. Et pourquoi est-ce qu'ils commenceraient à ce moment-là ? Ça veut dire apprendre de nouveaux trucs par rapport à certaines choses. Alors, il y en a peut-être qui ont fait l'effort, mais je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. Et du coup, c'est très, très compliqué de faire... Voilà. Donc, je pense que ouais, le confinement a fait beaucoup de mal à montrer encore plus ces inégalités qui n'ont jamais été montrées à la télévision. Jamais. On voyait que les personnes qui faisaient du sport pour les petits vieux sur leur terrasse. Super,
mais en fait... Qui avaient des chiens pour les promener. Ah, Juliette.
Par exemple. Mais
Juliette,
en fait,
comment a vécu ton chien le confinement?
Pas très bien, en fait. Ah, ouais. Il y aurait un sujet sur les chiots du confinement. D'ailleurs, les éducateurs canins sont un petit peu en ce moment en difficulté. Oui, parce qu'en fait, les chiots confinés, ont raté leur période de sociabilisation qui est entre 2 et 4 mois. Et un chiot, quand il arrive à 2 mois, et en théorie, c'est là que tu es censé l'emmener un peu partout, lui faire visiter tous les endroits possibles et imaginables pour pouvoir avoir... pouvoir l'habituer, en fait. Et les chiots ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des chiens très anxieux, parfois très craintifs, sauf si on essaye de rattraper les choses après avec un éducateur ou une éducatrice. Mais très peu de gens, en fait, prennent cette initiative. Donc, il y a toute une génération, là, de chiens qui ont un déséquilibre psychologique, en fait, tout simplement. Donc, on pense que ça n'a pas d'impact, mais ça a un impact. Ouais. Et j'ai beaucoup travaillé, moi, avec ma chienne pour... qu'elle puisse sortir dans la rue, ne pas avoir peur des gens, ne pas avoir peur des autres chiens, etc.
C'est incroyable, c'est vrai qu'on ne s'imagine même pas tout cet aspect-là animalier de la chose. Ok, bon, merci pour ce sujet hyper, hyper intéressant. On passe à la deuxième pause musicale avec la musique La Femme de Barbara Pravi. Barbara Pravi, c'est qui? C'est celle qui a eu la deuxième place à l'Eurovision en 2020.
2021,
ouais. La dernière édition de Eurovision, pardon. Et du coup, elle a sorti un nouvel album il y a quelques mois et qui parle un petit peu de l'indépendance, de la femme.
Alors, uniquement cette chanson, hein, mais n'écoutez pas la chanson d'après. Mais celle-là est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Du coup, bonne écoute.
Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes seins. Mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Ce que je fais de mes nuits, ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie, mes ambitions. Comment je recouvre ma chair, quel est le bruit de ma colère quand je dis non. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Mon bruit, ma sueur, mon goût, mes vies, mes morts et mes coups. Dedans mes veines, le sang qui bout, mes rages, mes colères, mes dégoûts. Qu'on me demande sans cesse qui compose pour moi les mélodies que je fredonne. Comme si on n'était pas fini, comme s'il y avait toujours besoin d'un homme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Qui a décidé ce qu'est la femme? Mon corps plus ou moins beau, mes choix, mes règles, mes fardeaux. Mes seins, mon cœur et ses réflexes. Ma peau, ma taille, mon sexe. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme.
Merci pour cette belle découverte. Nous allons faire maintenant un petit point actu avec Estelle. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce qui se passe en ce moment chez les Bavardes et les événements à venir?
Oui, carrément. Est-ce qu'on peut mettre une petite musique Breaking News derrière ou pas? Non, c'est pas
possible. Je peux la faire.
Je regarde la technique.
Breaking News. Pam 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 pam.
Je l'ai cherché, je vais en mettre une. Non, je rigolais. On a toutes les versions là, c'est génial.
Je propose qu'on mette ce qu'on vient de faire là pour.
Bon, alors, du coup, oui, les nouvelles actus des Bavardes, c'est maintenant. Sortez vos agendas, vos stylos, vos papiers, tout ce que vous voulez, vos téléphones.
Post-it.
Les post-it. Voilà. Alors, du coup, du 5 au 14 novembre, nous co-organisons un festival qui s'appelle la Witches Week, avec GAS, qui est le groupe d'appui de solidarité, et la Cité Carter, qui est à Amiens-Nord, pour un festival qui va durer 2 semaines, avec de la musique, du théâtre, des ateliers, de la danse, de l'art plastique, de la photo, tout plein de choses. Du coup, c'est le moment où on sort les agendas. Le 5 novembre, nous avons quoi? Nous allons avoir un one woman show dansé qui sera fait par la compagnie du Tourillon. Ce sera à 20h30. Ensuite, nous allons avoir un concert de Pur Sang, qui est un groupe de 2 meufs qui étaient déjà venues l'année dernière sur notre version visio de la Witches Week, et elles reviennent cette année en présentiel. Trop cool. Ensuite, le lendemain, donc le samedi 6 novembre, nous allons avoir le grand retour des scènes ouvertes 100% meufs des Bavardes. Donc rendez-vous à 19h30 à Cité Carter. Et nous allons ensuite enchaîner avec un DJ set de Van Campo, qui était déjà venu pour la première Pride à Amiens. Elle avait mixé pendant toute la marche et franchement, trop bonne ambiance. Venez, vous allez vous éclater. Ensuite, on enchaîne avec le dimanche 7 septembre. L'ouverture des portes se fera à 14h et là, ce sera journée atelier avec un atelier chant, donc avec les deux chanteuses de Pur Sang. Nous allons avoir un atelier photo avec Maëva, qui est notre ancienne de stagiaire bavarde. Nous allons avoir aussi un atelier art plastique avec Gaëlle et Joël. Et ensuite, nous allons finir la journée du dimanche avec un spectacle de breakdance où ça sera des jeunes danseuses de hip-hop. Trop bien. Ensuite, on enchaîne, parce que du coup, il nous faut 2 jours de repos. Donc le lundi, mardi, il n'y a rien, ok. Et ensuite, on enchaîne avec le mercredi 10 novembre. Nous allons avoir un musiconte. C'est fait par la bibliothèque qui est à Amiens-Nord. C'est pour plutôt les enfants. Et le soir, on enchaîne avec une conférence gesticulée de Prisca. Et le thème, c'est « Ça suffit, la honte et la culpabilité doivent changer de camp ». Donc, elle va parler de culture du viol. Voilà. Ensuite, le jeudi 11 novembre, on va avoir un ciné-spectacle débat d'une artiste brésilienne qui va faire de la clownerie. Voilà. Et du coup, on enchaînera après. En fait, alors pourquoi ciné? Parce que, en gros, elle va être filmée. On va la voir. Elle ne sera pas présente sur Amiens. En tout cas, elle sera toujours au Brésil. Et après, il va y avoir un petit débat sur ce qu'elle propose. Voilà. Pourquoi pas en présentiel? Parce qu'elle ne parle pas français et que faire de la clownerie et avoir une traduction en direct, ça va être un peu compliqué. Donc voilà pourquoi. Pour des raisons techniques, tout simplement. Le vendredi 12 novembre, nous allons avoir le concert, 2 concerts, de Balidou à partir de 20h. Et ensuite, nous allons enchaîner avec Latika, qui est une super artiste aussi. Et le 13 novembre, un spectacle de danse de la compagnie Acorpo, j'aimerais te dire. Et en fait, pour vous expliquer rapidement sur ce projet-là, ça va être que des meufs d'Amiens, des Aminoises qui vont danser avec 3 danseuses professionnelles. Et pendant 15 jours, en fait, elles vont avoir des ateliers pour préparer ce spectacle-là, ce jour-là. Voilà, ça va tout se faire pendant la Witches Week. Trop, trop chouette. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez nous envoyer un mail, si vous avez envie de danser. Et ensuite, nous allons enchaîner avec 2 concerts avec Brevan Eck et Frida. Et pour finir, le dimanche 14 novembre, nous allons avoir à partir de 14h un escape game sur les sorcières. Nous allons avoir une bataille féministe pour faire des jeux de société inclusifs. Nous allons avoir un atelier zen. Et en clôture, nous allons avoir Gardezito, qui est notre abonné à toutes les scènes ouvertes depuis le tout début, depuis la toute première. Et là, elle clôture la Witches Week et c'est vraiment trop trop bien. On est trop contents pour cette programmation qui est juste géniale. Et pendant tous ces jours-là, on va avoir une expo photo, une exposition art plastique et Mina, notre artiste tatoueuse préférée, qui sera là pendant toute la Witches. Voilà pour info. Et ensuite, nous allons enchaîner, enfin un bond dans le temps, avec le 23 novembre, un blabla sur la grossophobie qui se passera au Green Corner. Donc c'est pareil, c'est par inscription. Envoyez-nous un mail à lesbavardamiens@gmail.com. Et après, on vous présentera ça la prochaine fois, mais bientôt, il y aura les 4 ans des Bavardes. Voilà pour le petit point actu. Yes. Beaucoup d'actu, ça fait trop du bien.
Petite question, oui. La tatoueuse sera là pour tatouer sur place?
Ouais, normalement, je crois que c'est ça les okay. conditions techniques, mais oui, normalement elle aura peut-être un petit studio à dispo cool. pour tatouer sur place.
Carrément.
Et c'est une super tatoueuse. Là, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 ou 6 tatouages, rien qu'à 3 personnes déjà là, et on l'adore. Merci Mina.
Peut-être wow. bientôt 6.
Peut-être bientôt 7.
Peut-être bientôt 8.
Mina, ouais, c'est quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps, qui nous avait tatoué à l'occasion du 8 mars en 2020. Ouais, ok. On me fait un signe, la technique me fait un signe, je dois me taire.
C'était aussi pour dire qu'on l'a eu en interview, oui. que c'était Angélique qui l'avait interviewé dans un des overbookés dont je me souviens plus, le juin, je crois.
Ouais, il y a un petit moment, c'était avant l'été, je crois. Donc voilà, c'est vraiment une personne qu'on adore, qu'on kiffe vraiment. Voilà. Donc l'émission touche à sa fin. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à mon acolyte en animation aujourd'hui, Sam. Et merci aux chroniqueureuses pour merci cette beaucoup. Super émission hyper intéressante et à la technique et au super public que nous avons eu. Merci. Et bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.